Merci de nous trouver sur Djoliba TV News et dans votre émission Le QG de l'actualité. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous qui nous recevez depuis chez vous sur Djoliba TV News en synchronisation avec toutes nos pages digitales, notamment la page Facebook et la page YouTube. Bienvenue ainsi dans votre émission de dimanche dont voici les thèmes. Le procureur du pôle contre la cybercriminalité face à la presse, nous l'avons vu justement en milieu de cette semaine, le procureur le docteur Adama Koulibaly qui était en face des hommes de médias pour parler justement de la cybercriminalité. Et voilà, et nous allons essayer de revenir sur le contour de cette rencontre avec nos différents invités. Notre second sujet va porter sur l'EDM, nouveau rebondissement. Nous avons vu cette semaine aussi, en tout cas, des arrestations de haut niveau, notamment l'ancien DG de l'office de l'EDM, justement, mais aussi la mise en garde, n'est-ce pas, du ministre, l'ancien ministre du tutelle qui était Seydou Lamine Traoré, qui justement est toujours en train de subir cette garde à vue. Nous allons essayer de revenir sur ce sujet aussi. Notre troisième et dernier sujet va porter sur l'an 2 de la souveraineté retrouvée. Nous avons vu l'année dernière, c'était un 14 janvier aussi, où les autorités de la transition ont comme initié une journée dénommée Journée de la souveraineté retrouvée. C'est donc l'an 2 de cette journée. Pour parler de tous ces sujets, nous recevons pour vous Cheikh Omar Soumano. Il est le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, mais aussi le coordonnateur du baromètre, M. Soumano. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Omar, bonsoir à mon co-débatteur. Monsieur Mamadou Mariko, bonsoir à tous nos téléspectateurs du Mali et d'ailleurs, et je profite de votre micro pour remercier, encore féliciter nos lauréats baromètres qui ont reçu leur distinction hier.
D'accord, merci infiniment à vous, Monsieur Soumano, d'avoir accepté notre invitation. Vous l'aurez compris, notre second invité, c'est Mahman Mariko, il est le président du CRAJ Fassou Nieta. Monsieur Mariko, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Monsieur Traoré, bonsoir à Monsieur Soumano et bonsoir à tous nos téléspectateurs, merci encore une fois pour l'invitation.
C'est toujours un plaisir, M. Mariko, de vous avoir autour de nous, de notre plateau, pour parler des sujets du pays. Alors, je disais tantôt, le procureur du pôle contre la cybercriminalité était face à la presse. M. Soumano, vous avez, en tout cas, emboîté, sinon pris le pas sur moi. J'allais peut-être vous demander de nous parler un tout petit peu du baromètre qui s'est passé pas plus qu'hier. Nous avons vu des distinctions. Comment ça a été déjà?
Merci bien, Omar. Bon, c'est vrai que je vous ai marché sur la langue, mais c'était un devoir d'abord de féliciter, de remercier. Vous savez, nous, on essaie de jouer notre partition dans la construction du pays à travers la manifestation des acteurs de développement. Et hier, effectivement, en fait, c'est une tradition chaque fin d'année. Nous avons nos barons de 2023-2024, donc c'est eux à qui on a remis des distinctions. En présence de deux membres du gouvernement, ça devait être trois, mais le troisième avait été empêché à la dernière minute, notamment le ministre de la Jeunesse. Donc les deux autres étaient là, le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Entrepreneuriat national. Donc je profite aussi pour les remercier pour leur présence. Et donc l'objectif, justement, c'est de montrer, magnifier les citoyens modèles et qui se sont distingués à travers tout ce qu'ils ont fait pour la nation. Donc hier, ils étaient au nombre de 38. Il y avait deux catégories, les baromètres simples et puis les super baromètres, parmi lesquels il y avait justement le procureur général de la Cour suprême. Il y a le directeur des impôts du district de Bamako. Vous savez, aujourd'hui, les objectifs de recette fiscale, ce n'est pas évident. Donc, ils ont quand même pu atteindre, malgré le contexte difficile, ça a permis véritablement au Mali encore d'affirmer sa souveraineté économique.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, ils étaient 38. Et il y a 13 femmes et puis 25 hommes.
Très bien. Félicitations à tous les barons et à toutes les baronnes, en tout cas, qui ont été couronnés cette semaine, sinon pas plus qu'hier, par le baromètre, dont le président est un des invités de ce plateau. Alors, le pôle, le procureur du pôle contre la cybercriminalité, M. Mariko, nous avons dit qu'il était face aux hommes de la presse ce mercredi à la maison de la presse, justement. Alors, ce pôle aujourd'hui, contre la cybercriminalité, apparemment, c'est quand même une loi, puisque c'est la cybercriminalité quand même régie selon une loi. Apparemment, c'est une loi qui n'est pas comprise par une bonne partie du peuple malien, M. Mariko.
Et bien sûr, je pense que c'est vrai, il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais dans nos pays, je pense qu'il va falloir que des efforts soient faits pour que des lois votées, mises en place, c'est-à-dire promulguées au nom du peuple, soient connues par ce peuple-là. Vous avez parfaitement raison, cette loi date de 2019. C'est la loi 2019-056 du 5 décembre 2019 qui porte en répression de la cybercriminalité en République du Mali. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en permanente évolution, ce qui veut dire que tous les aspects surtout dans le domaine des techniques de l'information et de la communication, doivent être cernées pour empêcher les criminels en fait de sévir dans ce domaine-là. C'est pourquoi cette loi, elle vise à identifier, à catégoriser les différentes lois et disons les différentes infractions dans le domaine de la cybercriminalité et comment les procédures en fait mises en place pour poursuivre et condamner en fait ces personnes qui contreviennent voilà aux différentes lois de la cyber aux différentes dispositions de la cybercriminalité. Quand vous prenez aujourd'hui l'espace des techniques de l'information et de la communication, on peut dire qu'il y a trois types d'infractions. Les infractions liées à la confidentialité, les infractions liées à l'intégrité et les infractions liées à la disponibilité. Dans le commun des mortels, ou disons dans le subconscient malien, à chaque fois que le procureur de la cyber, en fait, du pôle chargé de la cybercriminalité est saisi, beaucoup pensent que c'est une atteinte à la liberté d'expression ou en fait à des dispositions pour limiter les actions des citoyens. Okay. Je pense que ce n'est pas uniquement ceux qui font les vidéos ou ceux qui profitent de cet espace-là pour agir, comme on appelle, contre les uns et les autres. Parce que dans ce qu'on appelle la cyberespace, il y a beaucoup de choses qui peuvent en fait intervenir. Il y a le cyberespionnage, il y a le cyber l'utilisation en fait de ce cyberespace là pour même faire la guerre, pour porter atteinte à la confidentialité, pour même faire du sabotage dans le domaine en fait de l'industrie ou en fait d'autres domaines. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait bon, c'est que les citoyens soient informés. Et je pense que le procureur se donne ce devoir-là, mais ce n'est pas à lui simplement de le faire. Le législateur doit également l'accompagner. Toutes les autorités ou toutes les bonnes foi qui s'y connaissent doivent s'impliquer pour que le citoyen comprenne que désormais, il y a une loi qui encadre l'utilisation, en fait, du cyberespace.
Très bien. Oui, le citoyen, M. Soumano, doit être en tout cas informé, sensibilisé, en tout cas faire en sorte qu'il puisse s'imprégner des réalités et du contenu de cette loi contre la cybercriminalité. Et nous pensons que cet exercice auquel le procureur s'est donné cette semaine quand il a rencontré les hommes de médias, qui, selon lui, sont quand même les mieux placés pour en tout cas véhiculer cette information de sensibilisation concernant la loi sur la cybercriminalité.
Merci bien, Omar. Mon co-débatteur a pris en charge beaucoup d'éléments que je devais mettre en avant. Mais ce qui est important de noter, c'est que ceux qui ont demandé au procureur de venir ont vu juste, notamment les hommes de la presse, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tous les mises en cause, c'est par rapport à un problème de comment s'exprimer. Donc, ce n'est pas forcément une atteinte à la liberté d'expression, mais c'est on les interpelle parce qu'ils ont dépassé le seuil du tolérable, si je puis dire. Donc, ça veut dire, quelque part, il a indiqué, les gens peuvent penser que la cybercriminalité a été seulement érigée uniquement pour ce pan de personnes, cette catégorie de personnes qui ne respectent pas les principes de liberté d'expression. Or, ce n'est pas ça. Donc, le fait que déjà ils soient venus devant les hommes de presse, pour moi, je salue cette initiative-là. D'accord. Et de part et d'autre, au niveau des hommes de presse qui ont eu une initiative, et lui-même également qui a fait l'effort de venir, ça veut dire que cette action, elle est salutaire. D'accord. Donc, deuxième élément que je voudrais aussi élever, c'est que je le mets au compte de la sensibilisation de l'information. Vous savez, M. Maricou vient de faire un développement, il y a tellement d'éléments. Et ça fait que beaucoup de gens ont peur et prennent la loi, essayent de lire. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre la loi, essayer de lire. Une seule loi, la loi est accompagnée de beaucoup d'autres textes. Donc quand on lit seulement le texte, on ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a certains répondants qui se retrouvent dans le code général, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale. Donc voilà, c'est un ensemble. Donc la seule lecture de la loi ne suffirait pas de maîtriser. Donc voilà, l'exercice qu'il a fait, il allait au détail. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a eu un effort d'explication. Et là, c'est à l'actif du procureur. D'accord. Troisième chose aussi qu'il faudrait noter, et là je suis d'accord, c'est le travail du relais. Parce que l'exercice est fait en français. Comme le Malien parle le français, l'exercice devrait, de mon point de vue, être relayé par les hommes de presse, pas formellement par le procureur, mais qu'il y ait une traduction dans nos langues. En bambara, en peul, en soraï, etc. Donc, parce qu'il faut se dire qu'il y a effectivement le principe que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut qu'on se mette maintenant dans une posture de prévention. C'est-à-dire, il ne s'agit pas qu'à chaque fois, le procureur sévisse. Parce que le rôle aussi d'un instrument de répression, c'est la sensibilisation, c'est d'éviter d'atteindre à la loi, de contrevenir à la loi. Donc si on met en place un système de sensibilisation en amont, et cela à travers l'explication de tous ces détails dans les langues, donc la population est rassurée. Mais cela ne doit pas aussi exonérer la population et surtout la jeunesse, de pouvoir faire l'effort de chercher aussi à comprendre. C'est important. C'est-à-dire, il y a des jeunes juristes qui peuvent réunir au sein de leur organisation, au sein de leur association respective, d'autres jeunes pour leur expliquer. Okay. Donc, le procureur a fait un travail, c'est pas forcément son rôle, mais et ce serait bien s'il peut d'aventure de multiplier ce genre d'actions, mais le relais doit être encore pris par les leaders de jeunes, par les leaders de femmes, etc., les organisations de communicants, etc., donc qu'ils puissent aussi expliquer dans toutes les langues. Pour moi, et c'est l'enjeu principal à essayer de maîtriser. Quoi.
D'accord, rapidement, l'enjeu principal à essayer de maîtriser. Nous savons très bien que quand on parle de cybercriminalité, M. Soumano, on fait référence à tout ce qui est lié au système informatique et les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous aujourd'hui toutes ces dérives justement liées aux réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux justement?
Parce que déjà, les gens, vous savez, il y a deux choses. Les gens ont mal compris la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il y a la liberté d'expression qui est garantie, mais le libertinage d'expression ne l'est pas. Okay. Ça, c'est répréhensible. Il faut que les gens comprennent cela. Jusqu'où ? La manière de dire des choses. Par exemple, aujourd'hui, on peut venir, on explique. On peut ne pas être d'accord. Mais la façon de dire « je ne suis pas d'accord » aussi peut être constituée d'une infraction. Quand vous vous mettez à dire, à faire des accusations, vous vous mettez à tenir des propos qui sont de nature à atteindre leur public, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le cadre de la liberté d'expression. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un média qui est le plus suivi, le plus accessible. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas seulement à la population malienne à laquelle vous vous adressez. Vous pouvez peut-être atteindre d'autres couches, d'autres populations, peut-être des pays voisins, même à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut savoir mesurer, il faut savoir raison garder. Et donc, pour moi, aujourd'hui, celui qui prend la décision de se mettre derrière un peu son écran pour pouvoir dire des propos, parce que ça dépend, il y a certains qui le font. Il y a des émissions, il y a des débats, il y a souvent même des gens qui sortent pour pouvoir donner des secrets d'État. C'est là où ce n'est pas bien. Parce que, vous savez, on a le droit à l'information, mais de la même manière, il y a certains types d'informations, toute la population malienne ne peut pas avoir accès à ça tant que tu n'as pas une certaine position. Et donc, imaginez les informations classées top secret défense. Même au niveau de la population, il y a certains qui ont des postes. Par exemple, le directeur ne peut pas avoir des informations confidentielles qui sont destinées uniquement au ministre, par exemple. Et imaginez que ce directeur prenne cette information-là et en fait un usage de sorte qu'il veut montrer qu'il a la primeur de l'information, il commence à parler. Okay. C'est dans ce cadre de situation qu'on vous dit, mais vrai, vous avez votre liberté d'expression, mais le message que vous avez lancé n'est pas bon, parce que vous êtes allé prendre ces messages, vous avez eu ce message de façon illégale. Donc, voilà pourquoi la chose, elle est très complexe. Donc, quelqu'un qui se met derrière les réseaux, derrière son écran, il faut qu'il pense à tout ça, parce que tout ce que je peux dire, je peux être interpellé pour pouvoir venir soit établir la véracité, soit prouver que ce que j'ai dit, je l'ai eu dans les conditions normales et légales, ou alors ça n'a pas pour incidence d'attenter à l'ordre public. D'accord. Donc il faut que les uns et les autres aient ça à l'esprit.
D'accord. Oui, rapidement, M. Marco, nous savons très bien que cette loi sur la cybercriminalité, il est vrai, nous l'avons dit, c'est quand même une loi qui n'est pas fondamentalement comprise par une bonne partie du peuple malien, pour la simple raison que certains pensent que c'est une entrave à la liberté d'expression. Certains même diront que c'est une loi liberticide.
Non, moi je pense que en ce qui concerne le contrôle des expressions souvent excessives de certaines personnes, ce n'est que juste un pan en fait, de cette loi de la cybercriminalité. Vous savez, nous sommes dans un monde de concurrence économique. Imaginez que le concurrent d'une société industrielle puisse payer d'autres personnes à accéder de façon frauduleuse à des données, à des informations de la société concurrente. Si des dispositions ne sont pas prises pour sécuriser en fait cette société victime du piratage ou victime, comme on appelle, du cyber-espionnage, je pense qu'il y a beaucoup de défis économiques également à travers en fait cette loi-là qui cherche à contrôler, à encadrer et à protéger l'espace économique. Donc il faudrait peut-être pas... Tout ça, c'est peut-être la méconnaissance en fait de la loi pour limiter uniquement la loi de la cybercriminalité, comme on appelle ça, au seul usage du verbe, comme on appelle, à travers les moyens, disons les techniques de l'information et de la communication. Donc moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Mais c'est un aspect où, disons, c'est un pan important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser des outils que nous venons de découvrir. Il faudrait que nous sachions que l'usage de ces outils-là ont des conséquences ou, disons, doivent avoir des limites. On ne peut pas, à travers, comme on appelle, ces outils, aller dans la, comme on appelle ça, dans la vie privée de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas. Voilà, si on s'en tient même à la définition de la cybercriminalité, c'est toutes les infractions commises à travers les moyens de ces différentes techniques, de l'information, en fait, de la communication. Mais au-delà de mettre de l'ordre dans ce champ-là, mais on essaye aussi de chercher à comprendre qui est qui utilise à quel dessin, en fait, cet espace-là. Donc, c'est pourquoi je dis, au-delà des aspects d'éducation, au-delà des aspects, en fait, de contrôler la liberté d'expression via les réseaux, il y a aussi, comme on appelle, un défi de protéger l'espace économique que d'autres pourront, en fait, utiliser. D'accord. Cheikh Mouare a parlé, par exemple, en fait, des informations top secret, en fait, par exemple, du ministère de la Défense. Il y a ce qu'on appelle le hacking, c'est-à-dire des personnes qui cherchent à intégrer ou à rentrer par intrusion dans le système de données d'autres sociétés. Donc, la loi de la cybercriminalité essaie vraiment d'encadrer et de protéger, en fait, tout cela.
D'accord. Oui, vous faites bien de rappeler, M. Marouko, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous savons aujourd'hui, en ces temps qui courent, ce sont des outils qui sont incontournables. Ils peuvent contribuer, justement, au développement, à l'épanouissement, même à la croissance d'un individu, même de la population. Mais ceci dit, ils peuvent être aussi des outils très dangereux pour nous-mêmes en tant que citoyens.
Bien sûr. C'est d'où l'intérêt de mettre en place une loi pénale pour encadrer l'utilisation ou l'usage en fait de ces différents outils-là. Il faut quand même que les uns et les autres comprennent que cette loi-là date de 2019 et l'objectif, c'est vraiment d'encadrer l'usage des moyens ou disons des techniques de l'information et de la communication pour que nous sachions que nous sommes dans un monde en fait qui évolue. Okay. Hier, les gens, par escroc, en fait, à travers certains actes d'échange verbal, pouvaient escroquer. D'autres, à travers en fait, des stratagèmes, pouvaient faire des abus de confiance. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, avec ce mécanisme-là ou avec ces outils-là, les méthodes changent. Okay. Et si les méthodes changent, forcément, le législateur a pensé à mettre en place un dispositif pour encadrer et pour sanctionner ceux qui font passer à travers ces outils-là pour en fait commettre des infractions.
D'accord. Monsieur Soumano, aujourd'hui, nous savons, on peut, ces outils, nous l'avons dit, ils sont incontournables pour nous. Difficilement, nous pouvons faire une journée entière sans qu'on aille sur les réseaux sociaux, sans qu'on s'en serve. Alors aujourd'hui, quelle attitude devons-nous adopter pour, en tout cas, se servir de ces outils afin qu'ils puissent nous servir aussi, mais sans pour autant qu'ils puissent conduire à notre... sans pour autant qu'ils puissent nous nuire dans l'avenir.
Alors, déjà, pour ceux qui font beaucoup de publications, il faut faire extrêmement attention. Parce que quand vous mettez une information sur votre mur qui vous engage, une information aujourd'hui, vous la mettez qui n'est pas vérifiée. Hein. Donc les gens ont tendance souvent, pour vos collègues, souvent journalistes, ont voulu montrer qu'ils ont la primeur, peuvent mettre des informations. On a une information, même si on l'a, il faut d'abord se donner le temps de réfléchir à sa sensibilité. Est-ce que ça peut faire ? Est-ce que l'information, c'est du fake ? Est-ce que l'information peut attenter à l'ordre public ? Est-ce que l'information peut mettre en... avoir un impact négatif sur la cohésion, etc. Donc voilà la cohésion sociale. Donc voilà des questions qu'il faut se poser. Donc en fonction de la réponse, vous devez avoir une attitude responsable. Donc l'attitude responsable, c'est comme si on dit, il faut se comporter en bon père de famille. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comme il a dit tout à l'heure monsieur Maricot, ce que nous voyons de cette loi, c'est uniquement un pan de son champ d'action. Il y a par exemple dans le cadre de la guerre économique, parce qu'actuellement on appelle la concurrence guerre économique, il y a des systèmes d'espionnage qui sont mis de part et d'autre pour pouvoir espionner son entreprise concurrente. Donc les éléments, par exemple si vous allez sur la page de votre concurrent, vous avez tendance par exemple à pouvoir vous infiltrer pour avoir des informations alors que c'est interdit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si on prend également le domaine sécuritaire, il l'a dit, tout ce qui est données qui sont stratégiques et qui sont confidentielles ne devrait pas être accessible à tout le monde. Mais il y a des gens, il y a des hackers qui passent par des stratagèmes pour pouvoir accéder à ça. Et tout ceci, c'est contrôlé. Donc la loi condamne tout ça. Mais nous, ce qu'on voit, c'est véritablement l'expression sur les réseaux sociaux. En divulguant soit des informations qui sont de nature à créer l'ordre public, à attenter à l'ordre public, soit des propos diffamatoires ou mensongers. Et donc là, vous êtes carrément vous tombez sous le coup de délit de presse, parce que vous êtes en train de donner une information qui dépasse votre liberté. Et dans, vous pouvez mettre en danger la cohésion nationale. Et donc, je ne dirais pas aux gens de ne pas s'exprimer. Je ne dirais pas aux gens d'adopter une posture de silence, non. Je leur dirais plutôt quand ils vont s'exprimer, qu'ils le fassent en toute responsabilité. On peut avoir une information. Par exemple, vous savez, il y a des gens, souvent, ils se laissent aller. On a vu un syndicaliste, une fois, je me rappelle, il était en conférence de presse. Il a allé jusqu'à dire que ce dernier mérite d'être que dans leur village, si on prend ce genre d'individu, on doit le tuer. Vous voyez, quand vous le dites, vous êtes dans le feu de l'action, vous ne vous rendez pas compte, mais cette personne qui est indexée peut vous attaquer pour véritablement menace de mort. Alors, vous n'êtes plus dans le cadre d'une expression simple. Vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, c'est parti, la personne l'a entendu, il y a la preuve, mais la personne va chercher à se défendre. Donc, dans ce cas, après, on va dire oui, atteinte à l'autre. Donc, voilà. Mais si on était parvenu, si la personne était parvenue à avoir le sens et la mesure, mm-hmm. en disant que nous ne voulons pas des individus comme ça, parce que dans d'autres pays, ça pourrait être ça. Mais si tu dis directement que cet individu mérite d'être exécuté, donc vous voyez que vous n'êtes plus dans le cadre et le réseau social vous a permis de pouvoir atteindre d'autres personnes et même la personne en cause pourra entendre la chose. Donc moi, je dirais aux uns ou aux autres de savoir et de s'en garder, d'agir en toute responsabilité. Et voilà, il faut aussi un travail d'éducation. D'éducation en matière de prise de parole, c'est important. Je le mets en guillemets parce que, vous savez, n'importe qui ne peut pas prendre la parole. Prendre la parole, s'exprimer en toute responsabilité, c'est aussi un art. Donc les uns et les autres doivent s'inscrire à cette école-là.
D'accord. Oui, rapidement, M. Marco, nous savons très bien qu'aujourd'hui, la prise de parole, c'est devenu difficile aujourd'hui, en ces temps qui courent. Face aux réseaux sociaux, qu'est-ce que nous devrions faire réellement afin de pouvoir, si on a des informations, même s'il y a des choses à dénoncer, qu'on puisse le faire, mais en restant toujours derrière la loi et en faisant dans les règles de l'art.
Oui, vous savez, avant la loi portant répression de la cybercriminalité, le Mali a érigé ce qu'on appelle une agence, l'agence, comme on appelle, de protection des données à caractère personnel. Ça veut dire déjà que les uns et les autres sont tenus. C'est pourquoi je disais que les infractions, parmi les infractions, les types d'infractions liées à la cybercriminalité, il y a les infractions liées à la confidentialité. Ce n'est pas parce que vous avez des informations sur ma personne ou sur la personne de l'autre que vous pouvez vous permettre de les divulguer. Et ça, c'est une atteinte, comme on appelle, c'est porter atteinte à la vie privée de quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous utilisez ça sur votre téléphone que vous ne portez pas atteinte à la vie de l'autre. Dès lors que vous amenez ces éléments-là sur la place publique à travers votre téléphone, je pense que vous avez porté atteinte à la vie privée de quelqu'un. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire extrêmement attention. Ces outils présentent des avantages si nous les utilisons à bon escient. Mais si nous ne les utilisons pas à bon escient, ça peut se retourner contre nous et ces revers-là peuvent souvent nous coûter très cher. C'est pourquoi moi je pense que les uns et les autres doivent faire extrêmement attention et se limiter souvent dans l'usage de ces techniques de l'information et de la communication, comme on appelle ça, au bon principe. D'accord. Et de ne pas outrepasser, comme on appelle, voilà, les bons principes. Et il y a des informations qui parviennent, surtout dans notre cas aujourd'hui, des informations qui peuvent porter atteinte, comme on appelle ça, à l'intégrité morale de toute une armée, de tout un pays. Donc les partagés peuvent également contribuer à se mettre, comme on appelle, dans la posture d'une complicité, de divulguer des fausses informations. Donc il faut faire extrêmement attention, comprendre que désormais cet espace-là est surveillé, cet espace-là est contrôlé, cet espace-là, agir sans tenir compte vraiment de certaines situations peuvent exposer les personnes qui le font, disons, à une, comment on appelle ça, à être considérées comme des contrevenants à la loi. Donc, d'accord, il faut faire énormément attention, savoir en fait utiliser ces outils-là, okay, et se dire que tout ne doit pas être dit n'importe comment et n'importe où.
D'accord, tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être mis sur les réseaux sociaux. Ce sont des conseils sur lesquels nous allons justement. Il est fait bien ce premier, en tout cas, thème. Nous allons, sans forme de transition, aller au second thème consacré à l'EDM, énergie du Mali. Nous savons que depuis un bon moment, il y a en tout cas une crise qui sévit dans cette structure. Nouveau rebondissement, nous l'avons dit tantôt. Oui, nouveau rebondissement, peut-on dire ainsi, car au cours de la semaine, nous avons vu des arrestations, de haut niveau, des gens qui sont en tout cas mis en garde justement et qui sont donc interpellés et qui doivent être entendus dans les heures à venir. Voilà, la crise EDM, finalement, monsieur Soumano, c'est une crise qui continue et qui n'a pas encore donné son épilogue.
Oui, bon, ça, quand on regarde le cours normal des choses, ce qui se passe, ça ne doit pas étonner. Pourquoi? Déjà, il y a Madame le ministre qui était sortie pour parler déjà de beaucoup de mauvaise gestion. Et le président de la transition, dans son discours à la nation aussi, a intégré. Donc, vous voyez déjà, et entre-temps, il y a la justice qui avait été saisie et qui, aujourd'hui, est en train. On voit un peu les premiers résultats, si je puis dire, des enquêtes judiciaires qui sont menées au niveau du pôle économique. Maintenant, ce qu'il faut noter, important, jusqu'à ce stade, les interpellés ou les mises en cause bénéficient du principe de la présomption d'innocence. Au Mali, malheureusement, quand on se retrouve dans cette situation, tout le monde pense que tu es coupable. Et c'est ça, c'est pour cela, aller être en garde à vue ou être mis en sous mandat de dépôt, les gens ont peur. Parce que quelque part, les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens ne comprennent pas le déroulé normal de la justice. Ça, c'est le déroulé normal. Aujourd'hui, le juge qui a mis en cause en garde à vue et qui pourrait éventuellement les mettre sous mandat de dépôt ou même les relâcher, il est dans son rôle, il a ce pouvoir-là. Et donc, parmi certains, j'en connais, je leur souhaite vraiment qu'ils s'en sortent parce que la justice est en train de faire son travail, donc personne ne peut accuser la justice, c'est son rôle de faire ce travail-là. Maintenant, même s'il y a justement mise en garde à vue, cela aussi ne va pas écarter l'application du principe de la présomption d'innocence au bénéfice de ces mises en cause. Cela étant dit, il faut que les uns et les autres aient ça à l'esprit. Maintenant, la deuxième chose que je veux voir, vous savez, quand il y a autant d'accusations de détournement, il peut ne pas avoir de sanctions, ce n'est pas possible. Parce que si cela est, ça veut dire quelque part même il y a l'impunité qui est encouragée. Je ne crois pas qu'aucun Malien ne pourrait soutenir l'impunité. Donc on doit aussi tiré chaperon de justice qui est en train de s'affirmer, et comme elle le fait toujours d'ailleurs. Et donc, et ces mises en cause, ils sont dans une mauvaise passe. Je leur souhaite le meilleur. Mais ils ont quand même tous les droits, les voies de droit, tous les moyens, je dirais, légaux pour se défendre. Okay. Okay, on ne leur a pas interdit d'avoir des avocats. Ils peuvent avoir des avocats. Et ceux qui n'ont pas les moyens bénéficieront de notre principe du droit pénal qu'on appelle la commission d'office. L'État même prend en charge les avocats pour les défendre. Donc, ici, déjà, le fait de pouvoir s'exprimer, parce qu'eux aussi, ils vont donner leur point de vue, ils vont expliquer les choses. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le travail de la justice se fait normalement. On ne va pas commenter davantage, mais on va juste dire que ce qui se passe, c'est le cours normal des choses. Maintenant, ce qu'il faudrait, il faut penser à la résolution du problème. Parce qu'une chose est de prendre des sanctions contre ceux qui sont mis en cause, mais pour moi, le vrai défi, c'est de pouvoir trouver une solution court terme. Et en cela, moi, j'évite tous les Maliens, pas seulement les autorités, hein, parce que les autorités sont en train de réfléchir jour et nuit. Je crois que chacun à son niveau, qui pour des compétences en finance, qui pour des compétences en gestion, qui pour des compétences en technique notamment, pourrait apporter. Il ne faut pas que chacun reste dans son rôle en disant non, on va voir ce que les autorités vont faire. Si on bat dans ça, c'est nous tous qui allons peut-être subir les conséquences. Donc moi, je proposerai à tout un chacun de pouvoir apporter sa solution à qui de droit.
D'accord. Oui, M. Marco, les interpellations, elles se multiplient ces derniers temps, hein, notamment liées à la crise de l'EDM. Les arrestations, oui, ça se poursuit aussi. Mais est-ce que, comme l'a si bien dit M. Soumanou, le défi ne serait pas ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est quand même pour la population d'avoir l'électricité.
Moi, je crois que le président de la transition est face à ses responsabilités. Parce que quand on écoute le discours du président de la transition, le discours de Nouvel An, concernant le volet énergie, il a dit que ses prédécesseurs n'ont pas eu une vision pour la question énergétique.
Il a parlé de manque de
bonnes et également la mauvaise gestion. Et quand on essaie de prendre aujourd'hui la situation judiciaire, en fait l'imbroglio judiciaire qui est en train de se mettre en place autour de la question de l'énergie du Mali, je pense que toute cette gestion relève des autorités actuelles. Donc ça veut dire quelque part, est-ce que ce qu'il a dit, qu'il a manqué de vision à ses prédécesseurs, et que ses prédécesseurs également peuvent être accusés, comme on appelle, de mauvaise gestion. Est-ce que lui et aussi, en fait, tout son staff sont en train aussi de tomber, en fait, dans les mêmes travers? Donc, il est obligé, aujourd'hui, de rendre compte aux Maliens. Et je me rappelle que le ministre de l'Énergie, lors d'une de ses sorties sur la télévision nationale, avait dit que, désormais, la gestion de la question énergétique relevait, comme on appelle, d'une commission au niveau de la présidence. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre compte parce que l'argent public a été investi et les autorités ont reconnu que cet investissement a été un mauvais investissement. Donc si ces interpellations visent à amener les Maliens à comprendre que désormais, il n'y a pas de Maliens, de super Maliens, toute personne qui touchera, comme on appelle là, à un COPEC des fonds publics doit répondre, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais comme l'a dit Soumanou, au-delà de ce feuilleton judiciaire, qu'est-ce qui doit être fait pour que les Maliens puissent sortir en fait de cette crise énergétique? Pour moi, nous sommes un pays qui essaie de se relever d'une crise de plusieurs années. Et nous avons des voisins qui peuvent être pour le moment, pour moi, une alternative de court terme. Si nous prenons par exemple la Côte d'Ivoire, si nous prenons par exemple la Mauritanie, les autorités maliennes doivent se déplacer pour aller vers ces pays-là. Il s'agit d'aller chercher la solution au mal-vivre des Maliens. Et cela ne doit pas se faire avec des questions d'ego. S'il s'agit d'aller chercher les intérêts des Maliens partout où cela peut se faire, je pense que cela doit se faire sans calcul. Parce qu'il s'agit des Maliens, il s'agit de permettre aux Maliens de mieux vivre une situation énergétique avant la situation de la transition. Donc si nous tombons dans une situation pire que la situation d'avant, ça veut dire qu'il faut chercher des solutions. Maintenant, il a dit qu'il y aura des solutions à court, moyen, long terme. En attendant, il n'a pas dégagé de schéma, et ce schéma non dégagé également n'est pas, comme on appelle, budgétisé. Donc moi, je pense, aujourd'hui, ayons l'humilité de se dire que le Mali a des voisins qui ont des ressources à nous aider, parce que à un moment, ces pays-là aussi ont eu besoin du Mali. Ils n'ont pas hésité à venir vers nous et nous avons fait ce que nous pouvons faire. Et si aujourd'hui, nous devons aller vers ces pays-là, c'est au nom du Mali qu'on le fait. On ne le fait pas au nom de quelqu'un, on ne le fait pas au nom d'un groupe. On le fait pour permettre à une population de mieux vivre et de mieux, comme on appelle, s'épanouir. Ça, c'est un droit élémentaire pour tout peuple.
D'accord. Oui, M. Marco, avec l'interpellation de l'ancien ministre de l'Énergie, M. Seydou Lamine Traoré, nous avons vu en fin de semaine qu'il a été interpellé, il a même été interrogé, n'est-ce pas, par la brigade, voilà, une brigade en tout cas chargée de la question. Alors, il serait toujours en garde à vue. Alors, si, en tout cas, cette procédure devrait encore continuer, en tout cas son cours normal. Nous savons très bien que le même Cyril Lamine Traoré, lors de sa démission, a quand même adressé une lettre au président de la transition. Laquelle lettre? Nous avons quand même l'impression qu'il le chargeait un peu pour n'avoir pas été soutenu par le président de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on penser que, avec l'interpellation du ministre Cyril Lamine Traoré, que la situation de l'EDEM, peut-être à partir de maintenant, va connaître un déclic?
Bon, moi, je crois que c'est une enquête ouverte et la gestion est entre les mains des autorités judiciaires et pour le moment, aucune information officielle n'a filtré. Mais d'ici là, je pense que ça, c'est pour mettre de l'ordre ou disons pour comprendre une gestion qui n'a pas été une bonne gestion. Mais en attendant, comme je l'ai dit, ça c'est un feuilleton judiciaire pour rendre compte. Ça c'est de la redevabilité qu'on essaie de faire aux Maliens. Okay. Des personnes ont été chargées de gérer une situation pendant un temps. Et pendant ce temps-là, et avec cette gestion, il y a eu des problèmes. Nous voulons comprendre. Et ceux qui doivent nous aider à comprendre, ce sont les autorités judiciaires qui ont en charge ce dossier-là. Okay. En attendant, qu'est-ce qui doit être fait? C'est ça aussi le plus important. Une chose ne doit pas, c'est-à-dire le feuilleton judiciaire ne doit pas avoir d'impact sur la recherche de la solution immédiate par rapport à cette crise énergétique-là. Vous savez, aujourd'hui, les Maliens, beaucoup de ceux qui sont même les grands soutiens de la transition, vont vous dire que la situation énergétique commence à être invivable. Et nous sommes en train d'aller progressivement vers une période de canicule. C'est-à-dire après le mois de janvier, mois de février, ce serait le ramadan. Et généralement, le mois de mars, les mois de mars et d'avril sont des périodes de canicule dans notre pays. Est-ce que cette situation, si on ne trouve pas une solution d'ici là, elle pourrait être tenable? C'est pourquoi je dis, par rapport aux alternatives à court terme, allons-y vers la Côte d'Ivoire, allons-y vers la Mauritanie, qui ont aujourd'hui des potentialités énergétiques à pouvoir aider le Mali à se sortir en attendant que les grands chantiers de faire mieux ou de donner en fait de l'électricité à tous les villages puissent se mettre en place. Mais en attendant que nous ne tombions pas, comme nous sommes en train de le vivre, dans, en fait, en dessous de la situation antérieure. D'accord. Donc cela peut vraiment avoir beaucoup de conséquences.
D'accord. Oui, la situation de aujourd'hui, M. Soumano, c'est que nous vivons, on a quand même l'impression que le pays n'a jamais connu une telle crise liée à l'énergie. Nous sommes en mois de janvier et le plus souvent, nous ne connaissons pas, en tout cas, ces coupures, on va mettre entre guillemets, sauvages auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et quand le président de la transition, lors de son discours de nouvel an adressé au peuple malien, dit que la crise aujourd'hui au niveau de l'EDM, c'est une crise de mauvaise gestion, en tout cas des gouvernements précédents. Alors aujourd'hui, est-ce que réellement vous reconnaissez dans ces propos-là? Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit, le peuple n'a besoin que l'électricité, peu importe la manière.
Bon, moi je pense que s'il y a un problème aujourd'hui qui préoccupe le président de la transition, c'est maintenant qui dans l'état est récupéré, c'est le problème de l'électricité, il dort avec, il se lève avec. Maintenant, si tout le monde veut qu'il y ait tout de suite, une solution, une embellie, tout de suite, 24 heures, les 48 heures, c'est ça le souhait de tous les Maliens. Mais souvent, des fois dans des situations, il faut aussi garder patience. Maintenant, il y a Marico qui parle d'approche à grands pas de la période de canicule mars-avril. Nous faisons tout le vœu de tous les Maliens, c'est que d'ici là, on puisse véritablement, de façon, en tout cas de façon substantielle, trouver une solution au fait qu'on puisse réduire au maximum le délestage actuel. Ça, c'est le souhait. Maintenant, vous avez, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. On peut avoir tous les moyens. La question aujourd'hui, si on regarde, moi je ne suis pas trop dans le dossier, mais ce que j'ai entendu ici et là, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement. Donc s'il n'y a pas eu d'investissement, il y a dû avoir une réduction en termes de production. Et quand on entend aujourd'hui Maman qui dit qu'il faut rapprocher la Côte d'Ivoire, il faut rapprocher la Mauritanie, la question aujourd'hui, si c'est la solution, pourquoi ne pas la faire? Mais ça va m'étonner que cela soit la solution et que nos autorités n'ont pas quand même exploité cela. Parce que comme je vous ai dit, si vous avez une solution aussi simple, pour moi, vous l'exploitez. Maintenant, si vous voyez que ce n'est pas encore exploité, peut-être que ce n'est pas la solution.
On peut aussi les refuser, comme l'a si bien dit Marouk, pour la question d'égo.
Parce qu'à un moment donné, bon, tout ça, ça peut être des détails, mais moi, je dis, si nous, citoyens lambda, voyons des choses comme ça, et que je me dis, de la même manière, nos autorités voient la même chose. Okay. Mais comme c'est elles qui ont la décision, donc peut-être pour X ou Y raison, elles peuvent ne pas aller vers cette solution-là. Ça, c'est ça dépend de leur jugement. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir nous-mêmes Maliens, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Maman a dit, la Côte d'Ivoire, il a parlé de la Mauritanie, mais moi aujourd'hui, c'est que moi je proposerais comme solution, c'est beaucoup plus pour soutenir l'activité économique, surtout les jeunes qui sont dans l'informel, les coiffeurs, etc., ceux qui ont des ateliers de couture. Moi, je réfléchis à leur solution. Parce que pour nous, l'électricité à la maison, avoir son clim, ça c'est un confort. Mais eux, ils vivent de ça. Ces petits opérateurs vivent de ça. Leurs familles vivent de ça. Donc, il faut très rapidement, s'il y a urgence dans l'urgence, c'est eux pour eux que c'est urgent. Et là, on peut régler. Si on réfléchissait, par exemple, à leur mettre à disposition, nous, ne serait-ce que sous forme de prêt, des générateurs pour qu'ils puissent au moins assurer leur activité économique. Ça, c'est peut-être, on aura résolu un grand problème parce qu'au moins, on aura sorti ces gens vers une situation qui ne serait pas maîtrisable plus tard. J'ai vu, par exemple, un jeune. Parce qu'en tant que président des jeunes patrons, je reçois beaucoup de jeunes qui me parlent de leurs difficultés et ensemble, on essaie de trouver une solution. J'ai trouvé un jeune qui fait ce qu'on appelle du couvage. C'est-à-dire qu'il a des appareils qui lui permettent de faire la couveuse pour les uns et les autres. Mais sans électricité, cela ne marche pas. Or, son prix de condiment est dans ça. Il a réfléchi, il est venu, il a demandé qu'on lui trouve justement un panneau solaire qui lui permette d'assurer. Et il fait une production. Donc la solution, heureusement, il y a une bonne volonté qui lui a offert ça. Donc moi, je me dis, peut-être lui, il a vu voir qui peut lui financer ça. Mais des jeunes qui n'ont pas cette chance. Il faudrait que, très rapidement, les organisations de jeunes puissent réfléchir, faire un projet en disant, bon, le générateur, ça fait 300 000 francs pour le gasoil, mais pour le panneau solaire, ça fait 1 500 000. Et si on est monté un projet, approchons les partenaires pour financer ces jeunes-là. C'est là où, véritablement, moi, je sens l'appui. Maintenant, pour le reste, c'est bien. Ça peut venir en deuxième position, parce que l'électricité pour le confort. Ça, à la maison, ça, je considère ça, je n'ai pas dit que ce n'est pas normal, que ce n'est pas normal, mais j'ai dit pour moi, si on doit faire une priorité, c'est surtout à ce jeu. Donc imaginez aujourd'hui, quand Assimi réfléchit, je me mets à sa place, il réfléchit à ce problème-là, il réfléchit au problème de confort, il réfléchit aussi au problème de gros opérateurs, ceux qui produisent, les boulangers, etc. Là aussi, c'est un autre problème. Parce que eux, il leur faut un certain nombre de watts, kilowattheures, pour pouvoir atteindre leur seuil de rentabilité. Et là, s'ils n'ont pas les moyens d'acheter le groupe, et même s'ils ont les moyens, est-ce que le prix de carburant, ils en ont? Donc, ouais, il y a tellement de problèmes qui se posent qu'ensemble, il faut qu'on se donne les moyens. Donc, maintenant, si on accepte le fait, par exemple, que ces opérateurs économiques et industriels, on leur facilite l'accès à un générateur, au même moment, il faut leur faciliter l'accès aussi au groupe, en laissant au carburant pour qu'ils puissent faire marcher leur groupe. Parce que si on leur donne des groupes, imaginez, ça va faire 25 000 par jour, ça va augmenter le coût. Mais j'ose espérer que nos autorités voient comme nous. Hein. Okay. Et ça, je leur fais confiance. D'accord. Et quand on dit, parce qu'il faut aussi noter qu'Azimu, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler, donc peut-être qu'il veut faire une surprise aux Maliens en leur apportant la solution
tout trouvé.
D'accord, que la surprise soit la bienvenue. Rapidement, hein, cette, toujours parlant de cette crise de l'EDM, nous avons quand même vu, on peut dire ainsi, cette petite incompréhension au sommet même de l'État. Parce que cette semaine, nous avons vu, lors d'une de ses sorties, hein, le Premier ministre Dr Chokolo Kalamaïka dit ne pas être au courant, en tout cas, de ce qui se passe, mais qu'on lui a quand même rassuré que, en tout cas, le travail est en cours et que tout rentrerait dans l'ordre très prochainement. Comment comprenez-vous cette sortie justement du Premier ministre Dr Chokolo Kalamaïka? Est-ce que cela reviendrait à dire que notre chef de gouvernement ne contrôle pratiquement pas le gouvernement, c'est ça?
Bon, moi je pense qu'il contrôle dans la mesure où il peut demander. Vous et moi, on n'a pas la chance de demander. Nous, on ne peut pas poser la question au président. Pourtant, on aurait bien voulu lui poser la question. Lui, il peut lui poser la question toutes les semaines. Et le président se donne l'obligation de lui répondre. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'il est déresponsabilisé. Je ne crois pas. Deuxième chose aussi, il sait les solutions. Parce que vous savez, comme j'ai dit, tout ne se dit pas. Il y a des informations qui ne se disent pas. Et pour moi, c'est là où moi je crois véritablement. C'est, vous savez, regardez la posture que l'État a adoptée pour la récupération de Kidal. Il n'y a pas eu de folles rumeurs. C'est lorsque l'opération est terminée que l'information a été donnée. Moi, je suis presque sûr que le gouvernement de transition est dans cette posture. Le Premier ministre, c'est qui est sûr, il a dit quelque chose qui doit interpeller. Le président a dit que je suis dans les prochains jours, il y aura la solution. Et comme c'est quelqu'un de nature taciturne qui n'aime pas trop parler, peut-être qu'il a sa solution et qu'il va se faire. Maintenant, quand le Premier ministre dit qu'il n'est pas au courant, il a dit à l'interne. Peut-être que ça, c'est par rapport à la commission. Ça, je ne sais pas. Et s'il n'est pas membre, peut-être qu'il ne peut pas savoir quels sont les débats dedans. Et lui, déjà, c'est son chef qui est le président. Donc, si son chef est le président d'une commission et qu'il n'est pas membre, peut-être que les discussions, c'est même pas normal. Vous savez, les gens l'oublient. Dans une commission du genre, commission technique, on peut dire, ben voilà, les informations, ça reste. Cela ne veut pas dire que le Premier ministre n'a pas le droit. Pour moi, s'il veut avoir les informations, il peut demander au président. Et comme ils en parlent tous les jours, c'est lui-même qui le dit. Il dit que toutes les semaines qu'il se fait, il pose la question et le président le rassure. Et lui-même, il estime qu'il ne peut pas aller au-delà de ça. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens voient un mauvais ce commentaire-là. Pour moi, comme on dit en Bamara, c'est-à-dire, autant ça préoccupe le Premier ministre, autant ça préoccupe le président, et c'est les collaborateurs les plus proches. D'accord. Donc je pense qu'ils sont en phase.
D'accord, ils sont en phase. Oui, Monsieur Marco, beaucoup de Maliens n'ont pas quand même compris cette sortie du Premier ministre, Dr Chokolo Kalamaïka, quand il dit ne pas être au courant, réellement, et qu'on lui a dit que les choses sont en cours et que très prochainement, ça va s'améliorer.
Bon, je pense qu'il faut faire un petit recul. Quand le ministre en charge des questions énergétiques était sur l'ORTM, le plus grand média en fait du pays, et je pense que le ministre ce jour-là avait rassuré et avait même dit à partir de, voilà, ces questions vont être résolues. Et vous avez vu que tout ce qu'elle avait dit, il y a eu des réactions virulentes, souvent même des syndicats de l'énergie du Mali. Et il y a eu, comme on appelle, beaucoup de clash, si on peut s'exprimer ainsi. Je peux m'exprimer ainsi. Okay. Et cela ne nous a pas amené vers la solution. Et quand le Premier ministre parle ainsi, je ne sens pas d'assurance. Parce que ça veut dire quelque part que tout doit être pris en fait à... Dans un esprit, tout doit être relativisé. Parce que ce qui me rassurerait, c'est quand les autorités nous diraient, Cheikh Mar fait une comparaison entre la prise de Kidal et cette question énergétique, je ne pense pas que ce soit une bonne comparaison à faire, parce que dans la prise de Kidal, nous sommes dans un domaine purement militaire. Et ici, des avances avaient été faites pour dire nous avons investi dans des groupes électrogènes à tel montant et ça nous a valu tel nombre de groupes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces groupes-là soient remplacés? Et cet argent-là va coûter combien aux contribuables? Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Et c'est ce sont ces contribuables-là qui souffrent. Donc je ne pense pas que quelqu'un puisse dire Je n'aime pas trop parler, le président n'aime pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du vivre des Maliens, de leur expliquer par rapport à ce que vous vivez, voici la solution qui est préconisée et cette solution doit vous coûter tant et sera mise en place à partir de ce délai-là. C'est aussi simple. C'est de cela qu'il s'agit, et c'est ce qu'on appelle la rédivabilité. Parce qu'on ne peut pas gérer les affaires publiques et cacher, comme on appelle, les informations aussi importantes de ces affaires publiques-là, en fait, aux populations. Jusqu'à quand les gens, les uns et les autres, vont rester, comme on appelle, dans cette situation.
D'accord.
Le Premier ministre pourrait peut-être dire, voici comme on appelle la situation, même si on nous a quand même dit à travers le ministre de l'Énergie qu'il y a une commission au niveau de la présidence qui gère, en fait, cette affaire-là.
Okay.
Et s'il y a une commission au niveau de la présidence qui gère cette affaire,
okay,
que cette commission, vraiment, à travers un responsable, puisse dire aux Maliens, voici, comme on appelle, les dispositions en cours d'être prises pour, en fait, absorber, comme on appelle, ce problème-là. Si cela n'est pas fait, je pense qu'il y a quand même des limites. Et ça, le discours que le Premier ministre a tenu ne me paraît pas un discours qui rassure, en fait.
D'accord, ça ne vous paraît pas rassurant. Ceci nous conduit, mesdames et messieurs, au troisième sujet de ce débat. Je pense que la transition est toute trouvée, hein, parce que l'ex-ministre de l'énergie, Sidou Lamine Traoré, puisque c'est de cela qu'il s'agit, avant de démissionner, avait fait une sortie sur l'une des centrales, en tout cas de Bamako. Au cours de cette sortie, il a quand même dit qu'à partir de maintenant, le Mali est souverain sur le plan énergétique. Nous allons justement parler de la souveraineté retrouvée. C'est l'an 2 de cette souveraineté retrouvée, hein. Nous avons dit que le 14 janvier a dorénavant initié comme journée nationale de souveraineté retrouvée. Alors, M. Soumano, souveraineté retrouvée, ceci dit, nous avons quand même des difficultés liées à l'énergie. Finalement, on est souverain en quoi?
Merci bien. Donc déjà, vous savez, depuis l'année passée, moi, je n'étais pas trop d'accord avec le terme même, le vocable souveraineté, parce que moi, je suis convaincu que la souveraineté, telle que moi je la conçois, du point de vue international, du point de vue public plutôt, n'avait jamais été perdu. Pourquoi? Parce que quand on parle de souveraineté retrouvée, ça veut dire quelque part qu'on l'a perdu. Et à quel moment on l'a perdu? Moi, j'estime que cette souveraineté malienne, on ne l'a jamais perdue. Il y a eu souvent de certains dirigeants qui ont accepté de courber les chines, qui ont accepté d'avaler des couleuvres sans créer gare. Ça je n'en disconviens pas. Mais dire que la souveraineté a été perdu, pour moi, je ne partage pas. Pourquoi? Quand on prend à l'interne, à quel moment le Mali a arrêté de voter des lois? À quel moment nous avons arrêté de pouvoir penser et réglementer nos secteurs nous-mêmes? Je ne crois pas qu'à un moment donné, cela s'est arrêté. Sur le plan international, une souveraineté, quand on l'a, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par ce qu'on appelle le droit de légation. Le droit de légation, le fait de pouvoir envoyer ses ambassadeurs auprès d'autres pays et aussi d'en recevoir. Je ne crois pas qu'à un moment donné, le Mali a été ce droit de légation actif et passif a été mis en parenthèse. Je ne crois pas trop. Donc, même pendant qu'on était sous sanction de la CEDEAO, nous avons rappelé nos ambassadeurs quand la CEDEAO a rappelé les siens, les pays de la CEDEAO. Donc ça veut dire que pour moi, il n'y a pas eu de perte. Mais par contre, si on trouvait notre formulation...
Okay.
Il y a eu ce débat et moi j'ai dit, c'est plutôt de dire une souveraineté affirmée. Alors pourquoi cette souveraineté affirmée? Parce que vous voyez, le déclic allait où le Mali a dit non, la population malienne a dit non à des sanctions. La population malienne s'est dressée comme un peuple derrière ses autorités.
Okay.
C'est surtout ça le symbole.
Okay.
Maintenant, et quand vous dites, quand on fait le parallèle souveraineté retrouvée avec le fait qu'on est dépendant encore d'autres, mais Maman l'a dit, il propose d'aller voir la Côte d'Ivoire, il propose d'aller voir la Mauritanie pour ne serait-ce que avoir l'énergie. Cela voudrait dire que pourtant ce problème a toujours existé. On a toujours été dépendant de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie, même d'autres. Donc moi je pense qu'il faudrait plutôt revoir, mais c'est bien de pouvoir commémorer cette journée.
D'accord.
Et moi en fait, vraiment, si je dois faire une suggestion, c'est de revoir la terminologie de ce vocable-là.
D'accord, voir la terminologie, hein, il parle de souveraineté affirmée plutôt que de souveraineté retrouvée. Monsieur Marico, en quoi cette journée est-elle une journée de souveraineté retrouvée? Pourquoi c'est aussi symbolique que ça?
Moi, je pense qu'il faut sortir des polémiques. Le Mali, je l'ai dit et je le répète, a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. C'est vrai que la gestion du pays n'a pas été du souhait des Maliens. Et le 20, on va dire le 18 août 2020, les jeunes militaires, les jeunes colonels ont pris le pouvoir. Et cette prise du pouvoir, malgré qu'elle ne soit pas légale, a été soutenue par les populations. Ça, c'est un fait. Et dans cette gestion, ces colonels ont tenté de faire ce qu'ils peuvent pour permettre au pays de se redresser sur un plan sécuritaire, sur le plan, comment on appelle ça, du retour de l'État sur l'ensemble du territoire. Beaucoup d'efforts sont visibles sur ce plan-là. Maintenant, il faut qu'on comprenne que la question de la souveraineté n'est pas une question statique. Nous sommes en train de dire tout de suite que la question énergétique est une des questions auxquelles le pays est confronté. L'une des solutions ou l'une des alternatives à cette solution réside ailleurs. Ce n'est pas la seule solution, mais l'une des alternatives réside ailleurs.
Okay.
Ça veut dire quelque part que nous avons, fort de cette souveraineté nationale et internationale-là, prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers les autorités ou vers les États amis ou des États qui peuvent nous aider à consolider notre situation par rapport à cette situation.
Okay.
Maintenant, si nous devons rester dans ces gymnastiques, je pense que nous serons beaucoup plus dans les détails.
D'accord.
Aujourd'hui, des efforts sur le plan sécuritaire, des efforts sur le plan militaire ont été faits. Salut et félicitations par rapport à ça.
Okay.
Maintenant, en ce qui concerne la relance économique, en ce qui concerne, comme on appelle, la consolidation de certaines situations économiques et sociales, je pense que nous avons besoin d'être un pays qui puisse aller vers les autres.
D'accord.
Et je pense que cela avait été dit, que nous avons le choix de discuter avec qui nous voulons. Mais ce choix doit être aussi opéré en fonction de ceux qui peuvent nous aider à D'accord. sortir de la situation.
D'accord. Merci, M. Mohamed Marco. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Nous ne pourrons même pas, malheureusement, vous donner un dernier mot hein, pour, en tout cas, vos voeux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Cheikh Oumar. Ah, on me permet de le faire justement. Donc, Cheikh Oumar, vous avez justement 30 secondes, hein, rapidement.
Oui, voilà. Donc, 30 secondes, c'est un vœu de très rapidement parce que depuis 2024, c'est la première fois que je suis sur ce plateau. Je souhaite prendre mes vœux les meilleurs à toutes les téléspectateurs, un vœu de retrouvailles très rapide d'une situation stabilisée pour la fourniture de l'électricité et aussi souhaiter que cette année soit une année de cohésion. Et le dialogue intermalien qui a été annoncé par le président, je rappelle de tout mon vœu que ça puisse être une année où on pourra faire appel à ceux qui font l'objet de poursuites, que la clémence de la justice, qu'on abandonne les chars pour s'associer aussi à l'édification du pays, parce que c'est quand même des Maliens. Et s'ils ont des compétences, on pourra les exploiter. Et aussi dire très bientôt que nous arrivons à prier pour que le Mali remporte la CAN.
Merci, M. Mar Madigou, à votre
place. Merci. Je pense que le Mali est désormais doté d'une nouvelle constitution, et ce qui appelle, sous le leadership des autorités actuelles, et l'une des alternatives ou l'une des solutions à stabiliser le pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les autres plans, c'est d'aller progressivement vers un retour à l'ordre constitutionnel. Et de ce fait, je pense que les autorités aujourd'hui sont tenues, en concertation avec toutes les couches du pays, à mettre en place un calendrier électoral pour que le pays, sur l'ensemble, en fait, dans son ensemble, soit doté des institutions et des organes, légaux et légitimes, pour que le Mali puisse être vraiment ce pays-là qui, avec sa ferveur-là, puisse, comme on appelle, travailler, agir dans l'intérêt vraiment des populations maliennes. Merci.
D'accord. Merci infiniment. Voilà, ce serait donc tout pour, je pense, avoir tout dit cette fois-ci, chef Augustin. Merci en tout cas pour nous avoir accordé ce petit temps de sursis. Merci infiniment, M. Cheikh Oumar Marco. Cheikh Oumar Soumano, je le dirai. Hein. Il est le président de l'Organisation des jeunes patrons, mais aussi le coordinateur du baromètre. Ce fut un plaisir, M. Marco. Et vous êtes toujours bienvenu ici, M. Soumano. Voilà, M. Soumano. Notre deuxième invité, M. Mohamed Marco, président de Kraj Faso Nieta. Ce fut un plaisir également, M. Marco.
Le plaisir est partagé.
Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche prochain, justement dans votre émission. Luc, l'actualité d'ici là, portez-vous bien et bon moment de télévision en compagnie de nos programmes. À très vite.